En ce nouvel an 2021, les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 se maintiennent. Et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires, dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAI en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Colol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine. Maintenant, en quelques minutes, place à l'actualité. Pour commencer, les titres. L'application de la deuxième dose du vaccin Sputnik V commence en Argentine et le premier cas de la variante britannique du coronavirus a été confirmé dans le pays. Le Brésil commence sa campagne de vaccination alors que les hôpitaux de Manaus croulent sous le poids de la pandémie de Covid-19. Un tremblement de terre de 6,4 degrés a secoué l'ouest de l'Argentine sans faire de victimes. L'Argentine promulgue la loi sur l'avortement et la question fait son entrée dans la campagne électorale chilienne. Le président mexicain demande à Washington une réforme de l'immigration alors qu'une nouvelle caravane a été réprimée par la police au Guatemala. Boca a conquis le tournoi de football en hommage à Diego Maradona. En Argentine, l'application de la deuxième dose du vaccin Sputnik V, développé par l'Institut Gamaleya en Russie, a commencé. Le ministre de la Santé, Ginés González García, a assisté à la vaccination du personnel de l'hôpital Posada, banlieue de Buenos Aires, 3 semaines après l'inoculation de la première dose. González García a informé que l'Argentine avait obtenu plus de 50 millions de vaccins grâce à des accords avec les sociétés pharmaceutiques Moderna, Sinopharm, Pfizer, CanSino et Sinovac, alors qu'une cargaison de vaccins d'Oxford-AstraZeneca part 7 semaines de l'Argentine vers le Mexique, où la production doit être terminée. Entre-temps, l'ANMAT, l'agence qui réglemente les médicaments, a approuvé un test rapide de détection des anticorps pour le Covid développé par des scientifiques argentins. Il permet de connaître le résultat en 5 minutes et est moins cher que les produits importés qui coûtent entre 5 et 7 dollars. L'Argentine a dépassé les 45 000 décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie et le premier cas de la variante britannique du virus a été confirmé chez un voyageur arrivé dans le pays en décembre en provenance d'Allemagne. Cependant, le nombre de cas semble s'être stabilisé après avoir grimpé à 13 000 par jour après la fin de l'année, selon les données officielles. Axel Kicillof, gouverneur de la province la plus peuplée, Buenos Aires, a célébré le fait que le couvre-feu nocturne imposé il y a 2 semaines a réussi à améliorer la courbe épidémiologique. Au cœur du débat se trouve la réouverture des écoles, après une année 2020 avec des classes virtuelles pour presque tous les élèves argentins. Les autorités gouvernementales de la ville de Buenos Aires ont anticipé que l'année scolaire commencera le 17 février avec des cours pour tous les élèves. D'autres districts se sont montrés plus prudents et ont soutenu que le retour en classe dépendra de l'évolution des indices épidémiologiques. Le ministre de l'Éducation, Nicolas Trotta, a déclaré qu'aucune école n'est prête à fonctionner à 100% comme avant la pandémie, de sorte qu'il y aura d'abord un double système, en classe et virtuel. Pour leur part, les syndicats d'enseignants ont exprimé leurs préoccupations concernant les plans officiels et ont réclamé des garanties en matière d'infrastructure et de biosécurité pour un retour en toute sécurité dans les salles de classe. Il convient de noter que tout au long de l'année 2020, les enseignants ont insisté sur le fait qu'ils n'ont jamais cessé d'enseigner et qu'il était de la responsabilité de l'État de garantir l'accès aux ordinateurs et à Internet. Par ailleurs, la courbe des nouveaux cas déclarés de coronavirus, qui correspond à la tranche d'âge entre 15 et 19 ans, présente à partir des dernières semaines de 2020 une croissance accélérée, a indiqué lundi la secrétaire de l'accès à la santé, Carla Bisotti, qui a souligné la nécessité d'intensifier les soins des moins de 20 ans, car il s'agit d'une population qui était beaucoup à la maison et la plupart sont sensibles au virus. Quand on regarde la courbe épidémiologique des moins de 20 ans en Argentine, elle a la même mobilité que la courbe pour la population générale, avec une augmentation soutenue du nombre de cas à partir de la semaine 51 de 2020, a décrit Bisotti. C'est le secteur qui préoccupe le plus le gouvernement national en raison de son laxisme à prendre des précautions, comme porter un masque ou éviter les rassemblements de masse. En fait, la plupart des campagnes de prévention actuelles sont orientées à ce segment. La ville de Manaus, en Amazonie brésilienne, connaît un collapsus sanitaire dû à la pandémie de Covid-19. Cette semaine, plusieurs patients ont dû être transférés dans d'autres états car les hôpitaux ont été débordés et il y a eu une pénurie de tubes à oxygène pour les plus gravement atteints et les cimetières sont surpeuplés. Deux vaccins contre le Covid ont été approuvés au Brésil, Sinopharm et AstraZeneca, alors que la demande d'autorisation du Sputnik V a été rejetée en raison d'un manque d'informations. Monica Calasanz, une infirmière de 54 ans, originaire de São Paulo, a été la première personne vaccinée au Brésil, le pays qui compte le plus grand nombre de décès dus au coronavirus derrière les États-Unis, plus de 200 000 depuis le début de la pandémie. En Colombie, le gouvernement a averti que les étrangers qui participeraient de fêtes clandestines, tenues malgré les restrictions sanitaires, seront expulsés du pays. De son côté, l'ancien président bolivien Evo Morales continue d'être hospitalisé par Covid-19 dans une clinique de la ville de Cochabamba. Morales a informé par le biais des réseaux sociaux que son rétablissement progresse et il a remercié pour les messages de soutien qu'il a reçus, notamment de la part du président argentin Alberto Fernández. Un tremblement de terre de 6,4 degrés sur l'échelle de Richter a secoué l'ouest de l'Argentine, principalement la province de San Juan, sans faire de victimes. L'épicentre du séisme se trouvait à 57 km de la capitale San Juan et le mouvement a également été ressenti dans les provinces de San Luis, Mendoza et Córdoba, entre autres. Selon le gouverneur de San Juan, Sergio Uñac, 5 personnes ont été blessées et près de 20 familles ont dû être évacuées, alors que des bâtiments et des routes ont subi des dommages. Selon Uñac, la province a évité des conséquences plus graves grâce à son code de construction strict, dicté après un tremblement de terre en 1944 qui a dévasté San Juan avec un bilan de près de 10 000 morts. Après le tremblement de terre, le président Fernández a effectué un voyage d'urgence à San Juan. Il a inspecté les régions atteintes et a promis des fonds nationaux pour la construction de logements. Alberto Fernández a promulgué la loi pour la légalisation de l'avortement après son approbation par le Congrès national. Dans une cérémonie à Buenos Aires, le président argentin a assuré lors de la signature « C'est un jour de grand bonheur parce que nous construisons une société plus équitable ». Il a ajouté que désormais, pour la femme ou la personne enceinte qui ne veut pas poursuivre sa grossesse, l'État sera là pour lui donner la santé que la clandestinité n'offre pas. Fin décembre, le Sénat a adopté une loi dépénalisant l'avortement jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Un projet de loi similaire avait été rejeté par la Chambre haute en 2018, mais le président Fernández, après son entrée en fonction, avait promis de présenter une nouvelle initiative. Depuis cette année, l'Argentine, l'Uruguay et la Guyane sont les seuls pays d'Amérique du Sud qui autorisent l'interruption volontaire de grossesse. Entre-temps, au Chili, où il y aura des élections présidentielles en novembre, les candidats ont commencé à fixer des positions sur l'avortement suite à la légalisation en Argentine. Paula Narváez, du Parti Socialiste, a anticipé que si elle entre au gouvernement, elle fera pression pour obtenir une loi visant à dépénaliser l'avortement. D'autre part, le président brésilien Jair Bolsonaro a réitéré son rejet, assurant que le Congrès de son pays ne l'approuverait jamais et que, s'il le faisait, il y opposerait son veto. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a exhorté Washington à une réforme de l'immigration qui résoudrait la crise dont la face la plus visible est celle des caravanes qui traversent l'Amérique centrale vers le nord. Le président a adressé ce message spécialement à Joe Biden qui vient d'assumer la présidence des États-Unis. López Obrador a déclaré en conférence de presse « J'espère que lorsqu'il prendra ses fonctions, M. Biden évoquera la question des migrants et qu'on leur offrira une option et que ce ne sera pas par la force ». Il a rappelé que Biden avait promis de faire avancer les réformes lorsqu'il était vice-président de Barack Obama en 2012. López Obrador a adressé ces mots au successeur de Donald Trump quelques heures après que la police guatémaltèque ait réprimé les migrants du Honduras à l'aide de gaz lacrymogène. Quelques 7000 Honduriens ont quitté leur pays après un ouragan dévastateur et se sont mis en route à pied vers le nord dans le but d'atteindre la frontière américaine. Mais à leur entrée au Guatemala voisin, ils ont été bloqués par les forces de sécurité. Selon la BBC, l'équipe de Biden a réitéré l'appel aux migrants de ne pas s'embarquer dans le voyage, car le nouveau gouvernement donnera la priorité aux migrants sans papier qui vivent déjà aux États-Unis. Les mêmes sources ont assuré que les politiques sévères de Trump, qui comprennent la construction d'un mur frontalier, ne changeront pas du jour au lendemain avec l'arrivée d'une nouvelle administration. Sport. Boca Juniors a remporté le tournoi de football Diego Armando Maradona en hommage au légendaire footballeur argentin décédé le 25 novembre dernier. Dans la ville de San Juan, l'équipe de Buenos Aires, dont Maradona était un supporter et un ancien joueur, a battu Banfield 5-3 au tir au but après un nul 1 partout dans le temps réglementaire. La semaine dernière, nous avons fait part de l'inquiétude des habitants des Malouines avec la sortie de la Grande-Bretagne du Brexit, car les îles de l'Atlantique Sud, revendiquées par l'Argentine, ne font pas partie de l'accord commercial négocié entre Londres et l'Union européenne. Pour en parler, nous avons récupéré deux rapports, l'un de France Télévisions et l'autre de Euronews.
On va vous emmener en voyage très très loin de Londres, à plus de 15 000 km. Dans un territoire britannique d'outre-mer, les Malouines, qui est un territoire qui a longuement été disputé avec l'Argentine, notamment, qui l'est toujours. Il y a eu une guerre et depuis les années 80, les Malouines appartiennent donc au Royaume-Uni. Et vous allez voir que là-bas, tout là-bas, eh bien le Brexit qui s'annonce avec cette élection de Boris Johnson et cette victoire criante de Boris Johnson, les Malouines pourraient être concernées, elles aussi, par le Brexit. C'est le reportage que vous présente ce matin Chloé Duval.
L'archipel des Malouines, ses 3400 habitants, son demi-million de moutons et ses innombrables manchots royaux. Un territoire britannique situé à plus de 12 000 km de Londres, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. Ses habitants ont obtenu la nationalité britannique dans les années 80, à l'issue d'un conflit avec l'Argentine. Sa richesse par habitant est l'une des plus élevées du monde, grâce notamment à la pêche. Mais le Brexit pourrait changer la donne.
La majorité de nos revenus dans les îles proviennent de l'exportation de poissons, dont la majorité va directement en Europe. Nous profitons d'exemptions de droits de douane et nous n'avons pas de quotas pour les produits de la pêche. Si cela change, bien sûr, nous pourrions nous retrouver dans une situation très difficile. Les recettes gouvernementales diminueront considérablement.
Des inquiétudes pour exporter les produits de la mer qui font sa richesse, mais aussi pour importer ces produits de première nécessité, comme les médicaments qui pourraient venir à manquer.
On nous a dit que si ce Brexit se produit, nos médicaments vont être touchés. Nous n'aurons pas tous les médicaments dont nous avons besoin et ça va nous coûter plus cher.
Et ce n'est pas tout. La préservation de cet environnement exceptionnel pourrait être menacée sans les financements de l'Union européenne, qui permettent notamment de restaurer les écosystèmes endommagés par l'homme.
Nous n'avons aucune garantie que nous pourrons avoir accès au financement de l'Union européenne à l'avenir. Donc le gouvernement britannique a une réelle responsabilité envers sa faune sauvage dans les territoires d'outre-mer, autant qu'il en a ailleurs.
La menace qui plane sur les Malouines est l'une des conséquences inattendues du Brexit.
Le Brexit soulève des questions jusqu'aux îles Malouines. L'exclusion des territoires britanniques d'outre-mer de l'accord commercial conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne crée une situation inédite. Si les 27 reconnaissent la souveraineté britannique sur cet archipel, les biens en provenance de cette région pourraient être soumis à des droits de douane. Cette situation porterait un coup à l'économie insulaire qui exporte 90% de sa pêche sur le marché européen. Notre requête, notre demande est terriblement claire. Nous voulons simplement pouvoir continuer à faire du commerce pour notre bénéfice et celui de l'Union européenne. Nos calamars sont appréciés en Italie, en France et partout. Tout le monde peut apprécier des encores nets de qualité et nous souhaitons maintenir ces opportunités. L'Argentine réclame la souveraineté de l'archipel. Buenos Aires espère bien pouvoir reprendre les négociations concernant un conflit vieux de plus d'un siècle.
Nous voulons avoir le soutien de tous les pays. Un soutien dans quelle direction? Le soutien pour des négociations bilatérales.
L'Argentine ne demande pas à tout le monde d'être d'accord, mais plutôt que le Royaume-Uni accepte de s'asseoir pour discuter. Il n'est pas possible que depuis 188 ans, une partie de l'Argentine soit usurpée par une puissance coloniale.
Les îles Malouines ont été le théâtre en 1982 d'un affrontement militaire.
L'Argentine, alors sous dictature, a voulu reprendre ce territoire au Royaume-Uni.
Mais ce coup de force s'est soldé par une défaite. Si tous les États membres de l'Union ont signé la résolution de l'ONU pour la décolonisation des îles, toutes les capitales ont soutenu Londres lors du conflit. Pour certains analystes, la sortie du Royaume-Uni peut changer la donne et lancer une politique de bonnes relations avec Buenos Aires.
On est dans une situation où l'Union européenne, dans le futur, sera amenée à débattre ces questions. Ça ne veut pas dire qu'il y aura facilement une position commune. Directement, il n'y a pas eu ça n'a pas été l'objet de débat, bien que l'on sait que certains États sont favorables à l'Argentine. Il y avait l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Suède, l'Autriche, la Grèce.
En pleine incertitude sur l'avenir de ces îles, les forces britanniques ont mené au début du mois des exercices militaires dans la région. Londres indique ainsi ne pas vouloir abandonner ce territoire stratégique situé à un peu plus d'un millier de kilomètres de l'Antarctique.
Parlant Malouine et de la guerre entre l'Argentine et le Royaume-Uni de 1982, écoutons Héroes de Malvinas, héros de Malouines, du groupe argentin Ciro y los Persas.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosala. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes. por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Bienvenue, amis d'actualité dx.com.ar, pour une nouvelle édition de notre rubrique sur les ondes courtes et le web, une production de Arnaldo Slaen. Dans cet espace, nous vous proposerons quelques-unes des nouvelles les plus pertinentes du monde de la radiodiffusion. En Colombie, il y avait 1588 stations enregistrées à la fin de 2019. Parmi celles-ci, 41,8% avaient un but commercial dans leur activité, tandis que 39,4% avaient une vocation communautaire et les 18,8% restants étaient d'intérêt public. Les stations commerciales ont concentré la plupart des recettes publicitaires en 2019. Il est important de noter que cette source de revenus a connu une tendance à la baisse au cours des dernières années, se réduisant de 21,7% en termes réels entre 2014 et 2019. Antioquia, Bogota DC et Valle del Cauca concentrent près d'un tiers des stations commerciales, tandis qu'Antioquia, Cundinamarca, Santander et Boyacá représentent 40% des stations communautaires. À leur tour, Antioquia, Nariño, Cauca et Boyacá représentaient un peu plus de 30% des stations d'intérêt public. Antioquia est le département qui a enregistré le plus grand nombre de stations en 2019, avec un total de 197. 146 d'entre elles fonctionnent en bande FM, tandis que 51 utilisent la bande AM. Parmi celles-ci, 146 opéraient en bande FM et 51 en AM. Bogota comptait 66 stations, dont 34 diffusées en FM et 32 en AM. En revanche, les départements du Guaviare, du Guainia, du Vaupés, du Vichada et de l'Amazonas sont ceux qui comptent le plus petit nombre de stations, moins de 20. Enfin, en ce qui concerne les audiences et la consommation de contenu, il est important de noter que, selon l'étude continue sur l'audience de la radio, 86% de la population colombienne écoutait la radio à la fin de 2019. Parmi eux, 76% ont préféré les stations musicales, tandis que les 24% restants, celles parlées. En ce sens, dans le segment musical, Olympique Stereo a consolidé sa position de première station dans les grandes villes et les villes intermédiaires, tandis que la première place dans le segment de la parole était encore fortement contestée par Caracol Radio, la W, la FM et Blue Radio. Le gouvernement national, par le biais du décret 464 de 2020, a déclaré essentiels les télécommunications, la radiodiffusion sonore, la télévision et les services postaux, afin de garantir leurs prestations et que la population dispose de moyens de communication et d'information pendant l'état d'urgence économique, sociale et écologique dû à la pandémie générée par la COVID-19. En ce qui concerne la radiodiffusion, une étude menée par Datexco indique que 61,6% des personnes interrogées ont augmenté la consommation de ce service dans le pays en raison des mesures nationales de confinement. De même, selon les informations du Centre national de consultation, en avril et mai 2020, par rapport au même mois en 2019, l'augmentation de l'audience radio due aux effets de l'enfermement a été de 1% et 2% respectivement. Le chef du service international de radiodiffusion des États-Unis poursuit sa restructuration de la voix de l'Amérique et il a nommé les directeurs de deux de ses principaux services, dont la division qui s'occupe des transmissions vers Cuba. Les mesures sont promues par Michael Pack, nommé par Donald Trump au poste de directeur de l'agence américaine Global Media Agency. Elles arrivent un mois avant le départ du républicain de la Maison-Blanche, soulevant des inquiétudes quant à la direction de ce service peu avant que le successeur de Trump, Joe Biden, ne prenne ses fonctions. Biden et ses collaborateurs ont déclaré qu'ils réévalueraient les actions de PAC et qu'ils pourraient le remplacer bientôt, mais il n'est pas certain que les décisions en matière de personnel puissent être annulées à court terme. Les démocrates et certains républicains accusent PAC d'essayer d'utiliser la voix de l'Amérique comme une agence de propagande pour Trump. Un tribunal a interdit à PAC de licencier les employés qui avaient été suspendus. Malgré ses revers, PAC a continué à restructurer le service contre toute attente et il a nommé deux personnalités conservatrices à la tête de Radio Free Europe, Radio Liberty, et de l'Office cubain de radiodiffusion qui dirige la radio et la télévision Marti d'opposition au gouvernement cubain. Et ainsi se termine ce programme en français de RAI, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento sur helado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.